France Inter, le 18-20.
Faut-il remettre en cause le changement d'heure ? Faut-il arrêter chaque année de passer une fois à l'heure d'été, à la fin du mois de mars, une fois à l'heure d'hiver, à la fin du mois d'octobre ? On en parle ce soir au téléphone sonne alors que le Parlement européen s'interroge ouvertement sur le sujet. Dans une résolution adoptée jeudi dernier à Strasbourg par 384 voix contre 153 et 12 abstentions, le Parlement demande à la Commission européenne de réaliser une évaluation en profondeur de la directive concernée, car il y a une directive qui harmonise ce changement d'heure dans l'Union. Alors pour l'instant, pas question d'un abandon de ce système, même si certains États le souhaitent, mais les questions sur la pertinence du changement d'heure adopté il y a plus de 40 ans, après le premier choc pétrolier, pour faire des économies d'énergie. On se demande en effet si ce système est vraiment bénéfique, quels sont ses avantages, ses inconvénients. Est-il vrai qu'il permet d'économiser de l'énergie ? Est-il vrai qu'il provoque des problèmes de santé, voire des accidents ? Ce ne sont pas là de petites questions, et cela mérite qu'on les pose à un petit peu plus d'un mois du prochain passage à l'heure d'été. Pour en parler avec nous ce soir, l'eurodéputée verte Karima Delli, à l'origine de la résolution adoptée par le Parlement la semaine dernière. Bonsoir Karima Delli.
Bonsoir.
Je précise que vous êtes la présidente de la commission transport du Parlement européen. Oui. Avec nous également Yves Marignac, spécialiste des questions énergétiques, porte-parole de l'association Négawatt. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et le professeur André Klarsfeld. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de physiologie à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, chercheur au laboratoire de plasticité du cerveau, c'est bien ça, et auteur d'un ouvrage intitulé « Les horloges du vivant », c'est nous, chez Odile Jacob. Pour interroger nos invités, ce soir, le numéro c'est toujours le même, 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Nous serons conduits à fixer une heure de printemps, une heure d'été, pour mieux faire coïncider le jour et la journée.
Cela signifie qu'à partir du printemps, les Français devront, comme on le fait traditionnellement à la campagne, se lever plus tôt, se coucher plus tôt aussi, si l'on se réfère à notre heure actuelle. En suivant le rythme du soleil, ils économiseront de l'électricité.
Voilà ce qu'on disait à l'époque et voilà comment depuis 1976, la France a deux heures différentes chaque année, un changement d'heure qui ne plaît pas à tout le monde. Cela dit, avoir vos appels ce soir au standard du téléphone sonne, vous êtes très partagés sur le sujet, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On commence avec Monique qui nous appelle du Vaucluse. Bonsoir Monique, vous je pense que vous n'êtes pas très chaude.
Non, moi j'aime pas du tout. Bonsoir, merci pour vos émissions. Moi je n'aime pas du tout parce que il faisait référence aux agriculteurs, mais les agriculteurs ils travaillent moins en hiver parce que les nuits sont plus longues et plus en été parce que les journées sont plus longues. Et moi je suis très sensible justement à la durée de la nuit. L'hiver j'ai besoin de dormir beaucoup plus et l'été je dors beaucoup moins. Et moi ce que je souhaiterais pour être vraiment dans le sujet, c'est que ça soit vraiment évalué avec tous les aspects, parce que par ailleurs je suis enseignante en maternelle et moi j'ai vraiment l'impression que les enfants tombent malades beaucoup plus juste après cette période-là.
Merci.
Voilà. Donc je souhaite vraiment qu'il y ait une évaluation sur cet aspect médical. Est-ce qu'il n'y a pas plus de maladies après les changements d'horaire?
Voilà. Merci Monique, merci beaucoup de nous avoir appelé. Vous souhaitez Monique une évaluation, ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que vient de demander le Parlement européen, Karima Delli.
Voilà, la résolution qui a été adoptée, on demande à la Commission de renforcer les études, même si elle a déjà fait des études, où elle montre que il y a plus d'impact négatif sur la santé, la sécurité routière, on parlera peut-être d'énergie tout à l'heure, que d'effets positifs. Là, la demande, elle est très concrète. La Commission européenne va renforcer les études pour voir quels sont ces impacts négatifs. Et ensuite, elle devra revoir sa copie en termes de directive avec, nous l'espérons, un abandon du changement d'heure.
Juste sur une question de procédure, sur le mécanisme européen, le fait que le Parlement demande à la Commission doit vraiment faire des études.
Voilà.
Partout, dans tous les pays.
Voilà. Elle s'engage à mettre à plat l'ensemble des études et nous rendre sa copie. Maintenant, la véritable question, c'est le calendrier. Quand ? Donc nous, en tant que législateurs, nous allons pousser et suivre les travaux de la Commission européenne pour pouvoir aller vite, justement, parce que légiférer, ça prend un peu de temps. Alors je rassure nos auditeurs, on va pas arrêter le changement d'heure dès l'année prochaine. C'est parce qu'après, une fois que la Commission aura pris sa décision, il faut mettre d'accord l'ensemble des États.
Et pourquoi est-ce que vous avez fait cette demande? Vous avez porté cette résolution, Karim Adeli, qui a été peut-être un petit peu modifiée, mais parce que vous pensez qu'il y a la force de l'habitude, on a pris l'habitude d'un système et qu'on se pose plus de questions?
Je crois surtout, c'est que moi, je pense que beaucoup de citoyens européens se mobilisent. Il y a énormément de pétitions en Finlande, dans tous les pays. Les Français sont favorables à l'abandon du changement d'heure, il faut le savoir. Et moi, je me suis dit, c'était l'occasion aussi de se rendre compte que le changement d'heure représente plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, au lieu d'avoir chaque année à devoir débattre de cette question-là, il va falloir trancher. Et ben, le Parlement a tranché. Et en plus de ça, il va falloir renforcer les études. Oui, mais après, il va falloir prendre une vraie décision.
Alors, sur la question des études, Yves Marignac, vous qui êtes spécialiste des questions d'énergie, vous pensez que c'est une bonne chose, effectivement, d'aller réfléchir au fait de savoir si le changement d'heure est bénéfique?
Évidemment, il faut caractériser l'ensemble des impacts de cette mesure. Elle a été décidée en 1976 pour des raisons d'économie d'énergie. Alors, les choses étaient peut-être différentes en 1976 d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le recul qu'on a sur l'impact énergétique de cette mesure est qu'il est réel, mais qu'il est très modeste. La question de la mise en perspective de ce bénéfice du point de vue des économies d'énergie, qui sont évidemment, d'une manière générale, une bonne chose par rapport à des impacts potentiellement négatifs qui, là, sont beaucoup moins bien caractérisés, doit évidemment se poser.
Voilà, ça doit conduire à poursuivre la réflexion et à faire des études. André Klarsfeld, on entendait Monique qui disait qu'elle était perturbée avec ces changements d'heure. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
D'abord, la première remarque, c'est que, en effet, c'est pas anodin pour notre système interne, pour notre horloge interne, c'est pas anodin de s'imposer un décalage d'une heure dans un sens, puis d'une heure dans l'autre tous les six mois, en gros. Ça, c'est une certitude. Maintenant, en ce qui concerne les résultats des études, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites. Alors, j'en ai relu quelques-unes pour préparer l'émission. Ce qui se dégage, en gros, c'est que les effets, s'il y en a, sont modestes et ils sont quand même assez discutés. Il y a des études qui vont dans un sens, des études qui vont dans l'autre. Il y a un point sur lequel à peu près tout le monde a l'air d'accord. Quand on trouve un effet, il est plus fort ou moins faible, selon que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, pour le passage, l'effet est donc plus important pour le passage à l'heure d'été que pour le passage à l'heure d'hiver. Donc les gens sont plus perturbés par le fait d'avoir une heure de sommeil en moins quand on passe à l'heure d'été. Ça paraît presque évident, mais en tout cas, c'est le sens de la plupart des études. C'est plus dur d'avoir une heure de sommeil en moins, et c'est aussi plus dur pour notre horloge de se recaler dans ce sens-là. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont plus de mal à se recaler quand ils voyagent vers l'est que quand ils voyagent vers l'ouest, parce que vers l'est, ça correspond au changement d'heure d'été, et vers l'ouest, au changement d'heure d'hiver, la direction du changement.
Monsieur Clarkson, même si l'impact n'est pas très important, quelles sont ces conséquences en termes de santé?
Alors, il y a deux types d'effets qu'on peut regarder. Il y en a un qui est à court terme, c'est des études qui comparent ce qui se passe juste avant et juste après. Alors, juste avant, pour être le plus rigoureux possible, on prend le lundi la semaine d'avant et la semaine d'après. Par exemple, le lundi juste après le changement d'horaire ou le lundi précédent. On compare lundi, lundi, mardi, mardi, etc.
Qu'est-ce qu'on constate?
Les études, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, par exemple, sur l'infarctus du myocarde. Donc il y a des études qui concluent qu'il y a un peu plus d'infarctus du myocarde le lundi, éventuellement le mardi qui suit, quand on passe à l'heure d'été, et plutôt un peu moins que la semaine précédente, quand on passe à l'heure d'hiver. Mais les effets sont très faibles, et encore une fois, ils sont un peu plus forts pour le passage à l'heure d'été. Quand on regarde sur la semaine entière, qu'on part toute la semaine qui suit l'heure d'été et toute la semaine qui précède le passage à l'heure d'été, là, les différences s'effacent. Donc c'est un indicateur. Si vous regardez au niveau de la semaine entière, on trouve plus d'effets. Alors ça, c'est les effets à court terme. Les effets à long terme, on regarde ce qui se passe. Le fait de vivre pendant 6 mois, disons, à l'heure d'été, il faudrait le comparer avec le fait de vivre pendant 6 mois en été, mais sans passer à l'heure d'été. Alors ça, c'est une comparaison qu'on sait pas faire. Donc on peut juste avoir des corrélations. Et encore, les études dont je viens de parler, c'est toujours des corrélations. On ne sait pas quelle est la cause, en réalité. C'est juste une corrélation. Et dans ces études à long terme, il y a parfois des effets positifs qui apparaissent. Par exemple, les enfants ont plus d'exercice physique. Dans certains pays, en tout cas, c'est pas forcément vrai dans tous les pays, mais dans certains pays, le fait de passer à l'heure d'été se traduit par un accroissement, une augmentation de l'activité physique des enfants, parce qu'ils ont plus de temps dans la journée, en fin de journée. Et ça, ça a des effets positifs sur la santé, à long terme. Donc, vous voyez, moi, ça me paraît vraiment très, très difficile d'utiliser des arguments scientifiques pour décider sur cette question.
Un océan de questions. Et on repart au standard du téléphone sonne. Patrice nous appelle de Damary-les-Lys, c'est ça?
Non, de Damary-sur-Saulce.
Oh, pardon. On vous écoute, Patrice. Voilà.
Oui, ben disons que je suis assez furax par rapport à l'intolérance des gens qui veulent supprimer l'heure d'été. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui profitent, des milliers de gens qui profitent de l'heure d'été le soir, soit pendant les vacances où il est très agréable de se promener dans la rue ou dans la nature, soit en revenant du travail avec quelques heures de loisirs bien méritées sur leur balcon, leur terrasse. Et donc si on supprime cette heure-là, eh bien ça sera une heure de moins. On a parlé de santé, mais je crois qu'il faut aussi prendre en compte le moral qui agit sur la santé. Et ces gens-là qui profitent de cette heure d'été, ça joue sur le moral, donc sur la santé. Mais ça, est-ce que vous pouvez le calculer? C'est pas évident. Et enfin, pour répondre à la dame qui était institutrice, moi j'étais instituteur aussi. Je veux dire que je n'ai jamais rencontré de difficultés par rapport aux élèves. Je crois qu'il y a vraiment un petit peu de baratin par rapport à ça. Il est très difficile d'évaluer l'influence de l'heure d'été. Et si vraiment, vraiment des enfants sont fatigués, eh bien, il appartient aux parents de prendre leur responsabilité et de coucher leurs enfants à 9h30 comme ils doivent être couchés, ou à 8h30.
Voilà, c'est dit. Merci Patrice. Karim Adeli, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein. Les avis sont partagés.
Non, non, mais je respecte notre auditeur. Sauf qu'il faut faire une comparaison aussi à l'échelle européenne. Pourquoi? Parce que l'harmonisation du changement d'heure doit se faire le même jour, le même jour, à la même heure, parce qu'on est dans un marché intérieur. Et tout communique, et notamment, je suis la présidente de la commission de transport, notamment nos communications et les transports. Et pour donner un argument aussi important, je vais vous donner un exemple très concret. Monsieur, vous dites, oui, nous les Français, par exemple, on a besoin d'une heure de plus parce qu'on peut profiter de balades, de plus sur sa terrasse, etc. Certes, mais par exemple, en Finlande, lorsque vous êtes en hiver, vous avez seulement 6 heures d'ensoleillement. Quand vous passez à l'heure d'été, vous avez 19 heures d'ensoleillement. Vous voyez l'écart d'ensoleillement pour l'adaptation notamment de nos corps et de notre horloge biologique. Très difficile. Et là, on leur dit, ça va plus être 19 heures, mais 20 heures. Et ben, il faut gérer aussi les conséquences de tout ça. Et ça a été, oui, il y a des études, c'est écrit dans la résolution, où on s'est rendu compte que justement, il y a environ 30% de la population, et particulièrement les personnes âgées et les enfants, qui, eux, avaient des conséquences sur leur impact de la santé. Ça se traduit comment? Très simplement, tout d'abord, on a des troubles du sommeil, on a des agitations nocturnes, on a des insomnies, parce que ils ont beaucoup de mal à s'adapter à cette heure d'été. Donc, monsieur, même si vous gagnez, le soleil se couche un peu plus tard en été, que vous voulez profiter, même si on reste sur l'heure d'hiver, ça va pas tellement changer le système pour nous, hein, les Français, mais ça changera beaucoup pour les pays du Nord.
Voilà, il faut tenir compte des voisins, André Klarsfeld.
Oui, c'est vrai que la situation d'un pays du sud de l'Europe et d'un pays du nord de l'Europe est pas comparable du point de vue de la saisonnalité. Hein. L'impact des saisons est beaucoup plus important et marqué, comme vous venez de le rappeler. Mais il faut quand même pas faire dire aux chiffres ce qu'on peut pas leur faire dire. C'est pas parce qu'on rajoute une heure en passant à l'heure d'été qu'on rajoute une heure d'ensoleillement. On passe pas de 19 heures d'ensoleillement à 20 heures d'ensoleillement parce qu'on a décalé, on avait passé à l'heure d'été. La durée de l'ensoleillement, elle change pas, qu'on soit à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.
Du fait que justement le fait de passer à l'heure d'été, ça veut dire que votre journée se rallonge d'une heure, et ben ce sera beaucoup, vous aurez une heure de plus de soleil. Mais quand vous êtes dans les pays du Nord, je sais pas si moi j'ai
qu'on soit 19 heures d'ensoleillement, reste 19 heures d'ensoleillement.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est pas l'heure qui est là, c'est pas cette heure là qui va jouer. C'est ce que je dis, la comparaison entre le phénomène hiver et le phénomène d'été. Lorsque vous êtes en hiver, en Finlande, c'est 6 heures de soleil. Et le basculement en été, c'est 19 heures. Vous voyez la différence? Et c'est cette adaptation-là. Et lorsque tout à l'heure je redisais, ben ça je veux le redire, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui des études, il y a une étude qui est du service juridique du Parlement européen, qui montre hein, que la nocivité sur la santé, elle est vraiment troublée concernant le sommeil, et notamment chez les petits. Donc maintenant, on va continuer les études, mais l'étude existe. Hein.
Juste une question avant de passer la parole à Yves Marignac pour la question de la consommation d'énergie. Monsieur Klarsfeld, vous l'avez évoqué tout à l'heure. La question, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on est à la bonne heure en France par rapport à GMT plus 1, etc. Ou est-ce que la question, c'est le changement ? Est-ce que ce qui pose problème, c'est de changer deux fois dans l'année ? Ou est-ce qu'il ne faut pas déjà réfléchir à pourquoi est-ce qu'on est à GMT plus 1 et à GMT plus 2 dans l'année ?
Alors, c'est une très bonne question. Ça résulte de choix qui n'ont rien de scientifique. Hein. D'ailleurs, les Anglais, les Britanniques et les Irlandais sont en train de se demander s'ils ne devraient pas passer à la même heure que le reste du continent. Pourquoi ? Parce que, en particulier, parce que ils trouvent que le soleil se couche bientôt l'hiver. Donc, voilà, ils préféreraient peut-être. Et puis, ça permettrait d'encore favoriser davantage, même si, en ce qui concerne le Royaume-Uni, le Brexit va pas dans le bon sens, mais au moins sur ce plan-là, il se rapprocherait un peu de nous.
Et nous, on est à l'heure allemande, c'est ça, depuis la Deuxième Guerre mondiale ? C'est ce qu'on nous a expliqué.
Voilà, il y a des tas de raisons historiques. Le méridien de Greenwich et le méridien de Paris, c'est une rivalité entre grandes puissances. Bon, voilà. Donc il y a plein de raisons comme ça. Mais moi, je vois, vous citiez tout à l'heure, madame la députée, le fait que les Français souhaitent la suppression de l'heure d'été. Alors c'est vrai que 52%, c'est un sondage de 2015 que j'ai retrouvé, 52% souhaitent la suppression de l'heure d'été, mais 76% préféreraient rester à l'heure d'été tout le temps, en fait. Enfin, oui. La majorité des gens, une petite majorité des gens, sont contre le changement d'heure, mais une grande majorité de gens préférerait qu'on reste toute l'année à l'heure d'été.
Et puis il y a ceux qui ont du mal à expliquer ce que c'est que ce changement d'heure. Et je vous propose, hein, on ouvre une toute petite parenthèse et on s'amuse deux secondes avec cet extrait de France Inter d'il y a quelques années.
Nous passons de l'heure d'hiver à l'heure d'été. À 2h du matin, il sera 2h. Et à 3h du matin, il sera toujours 2h. C'est là qu'est la 25e heure de ce dimanche 31 mars. 3 sur 10 d'entre vous sont pour, tout simplement parce que ce changement d'heure permet de dormir une heure de plus et que ça n'est jamais désagréable après une semaine de travail. Voilà, il est 3h quand il est 2h, me signale notre réalisatrice. Voilà, c'est très simple. Donc, il est 3h quand il est 2h, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ça. Donc, finalement, au lieu de dormir une heure de plus, on dort une heure de moins. Ouais. Voilà, tout ça est très simple.
Voilà, ça, c'était Claude Guillaume, célèbre présentateur de cette maison. Et c'était pas le seul à se perdre là-dedans. Écoutez, c'est Passon qui avait rencontré Sandrine Houdin, c'était en 2013.
Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, le changement d'heure ?
Si c'est en plus ou si c'est en moins qu'on enlève, je ne sais pas.
Ah, ça, c'est toujours
tard d'une heure.
Ouais, on dort normalement une heure de plus.
Non, de moins, je crois. Attends, on prend l'apéro une heure plus tôt.
Les aiguilles, on les tourne dans quel sens ?
La droite.
On gagne une heure, je crois.
Ça veut dire quoi, on gagne une heure ? À 14h, par exemple, il sera quelle heure ?
14h, il sera 13h.
À 14h, il sera quelle
heure ? Et à 15h, il sera 15h.
Donc il fait nuit plus tôt ou ?
Il fait nuit plus tard.
Il fait jour plus tard. Ah oui, donc c'est l'inverse. C'est...
Voilà, hein, on est bien parti là. On précise quand même qu'on change pas d'heure ce week-end. Hein. Je vais quand même le repréciser. C'est à la fin du mois de mars, parce que sinon, on va en plus avoir des appels. Ça va devenir très compliqué. On va repartir au standard du téléphone sonne et je vous passe la parole, monsieur Marignac, juste après. Alain nous appelle de Paimpol. Bonsoir, Alain.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Je voulais dire que j'étais complètement opposé au changement d'heure pour différentes raisons. La première, c'est que comme vous venez de l'expliquer, on n'est même pas GMT plus 1, mais on est carrément GMT plus 2.
En été.
Et ça depuis la guerre de 40. Il ne faut pas l'oublier que c'est les Allemands qui nous ont imposé ça. Je crois que l'Espagne est restée à GMT plus 1 d'ailleurs.
Elle est comme nous l'Espagne. Mmh. Mmh.
Et en plus, je suis sûr que ça ne fait rien gagner sur le plan économique. Ça fait voler les avions une heure de plus au moment du changement d'horaire. C'est pas tellement économique. Ça fait faire plein d'horaires en plus à revoir et ainsi de suite. Donc c'est quand même une charge assez importante. Et sur le plan économique, si on voulait vraiment faire des économies, c'est pas vraiment là qu'on les trouverait. On pourrait les trouver ailleurs.
Merci Alain, merci beaucoup. Yves Marignac, sur ces fameuses économies qui ont quand même qui sont à l'origine de ce changement d'heure, qu'est-ce qu'on peut dire en matière peut-être d'éclairage et de consommation d'énergie ?
Alors, d'abord, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut faire beaucoup plus d'économies d'énergie que le changement d'heure. Mais l'histoire du changement d'heure et de l'énergie, c'est quand même avant tout l'histoire d'une domestication par l'homme, notamment de la lumière, la possibilité de s'éclairer quand il fait nuit. Et par rapport à ce dont on discutait sur les rythmes biologiques, etc., c'est ça qui nous a déconnectés, d'une certaine manière, d'habitudes de vie qui s'alignaient sur le rythme jour-nuit naturel. L'impact du changement d'heure sur les consommations d'énergie, en fait, il est réservé d'une certaine manière à des usages de l'énergie qui sont sensibles justement à cette alternance jour-nuit, c'est-à-dire d'une part liée à la luminosité et d'autre part à la différence de température qui existe entre le jour et la nuit, et ça concerne donc l'éclairage et les usages de chauffage et de climatisation. Du point de vue du chauffage et de la climatisation, à l'heure actuelle, dans un pays comme la France en tout cas, les choses sont peut-être différentes dans des pays où les climats en Europe sont plus marqués. Il y a assez peu d'impact, et le principal impact qu'on détecte aujourd'hui du point de vue des consommations d'énergie, c'est l'impact lié à l'éclairage, qui en termes d'énergie est vraiment mineur, puisque alors, les dernières études dont on dispose parlent de 400 gigawattheures, ce qui représente environ un millième de la consommation totale d'électricité annuelle. Il y a toutefois un impact qui est peut-être plus important que l'énergie, qui est l'impact en puissance. Alors la pointe liée à l'éclairage le soir, quand tout le monde allume la lumière, crée un différentiel qui, en termes de puissance appelée sur le réseau, peut être important. L'ADEME l'a estimé jusqu'à 2 ou 3 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 2 ou 3 réacteurs. Et donc là, il peut y avoir effectivement une certaine importance à différer dans le temps cette pointe. Mais toutefois, encore une fois, du point de vue de l'énergie aujourd'hui, les gains sont très limités, et c'est bien pour ça que, même si ces gains sont utiles, toutes les économies d'énergie sont utiles, il faut les mettre en perspective des détriments. Si les détriments d'un autre point de vue que l'énergie sont supérieurs aux bénéfices énergétiques, il faut éventuellement renoncer à cette mesure. Mais en revanche, il y a plein d'autres mesures, encore une fois, d'économie d'énergie qu'on peut faire indépendamment du changement d'heure.
Ça ne peut pas être un argument comme il avait été utilisé dans les années 70 pour instaurer le changement d'heure. Si on regarde véritablement la consommation d'énergie.
C'est un argument dans le sens où, du point de vue de la transition énergétique, les économies d'énergie, la réduction de notre empreinte écologique liée à l'énergie est indispensable. Et donc, toute économie d'énergie est en soi bonne à prendre. Après, les différentes mesures possibles pour économiser l'énergie sont porteuses de co-bénéfices ou de détriments. C'est vraiment variable selon les mesures qu'on peut imaginer. Et il faut évidemment donner la priorité à des mesures qui sont porteuses de co-bénéfices sanitaires, économiques et sociaux. Il y a un doute sur cette mesure-là, et c'est bien pour ça que mieux réaliser les études dans les différents pays est nécessaire.
C'est une bonne chose. Alors la grande question maintenant, c'est de savoir si on arrête le changement d'heure, est-ce qu'on garde une seule heure, laquelle on garde, l'heure d'été ou l'heure d'hiver? Et on va voir qu'au standard aussi, on se pose cette question.
Le 18-20, Claire Servageant, le téléphone sonne.
Irène est en ligne, bonsoir Irène.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Écoutez, moi, je suis très intéressée par le fait qu'on arrête de changer d'heure, parce qu'effectivement, c'est insupportable. Moi, je sais très bien dans quel sens on change, mais visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. Mais par pitié, qu'on nous laisse l'heure d'été. Pour vous dire, ma montre, je ne la change pas d'heure. C'est-à-dire que quand on passe à l'heure d'hiver, je la garde à l'heure d'été, parce que je ne supporte pas l'heure d'hiver. Je trouve c'est d'avoir le jour la nuit qui arrive à 17h, alors que si on restait à l'heure d'été, on pourrait l'avoir à 18h. C'est bien meilleur pour le moral que si on restait à l'heure d'hiver et qu'il faisait nuit à 21h en plein été.
Donc vous faites votre petite résistance à vous dans votre coin avec l'heure
tout
d'été.
Tout à fait. Et je vais tout à fait dans le sens du sondage que votre invité a cité tout à l'heure. Je suis effectivement contre le changement d'heure, mais qu'on nous garde l'heure d'été, par pitié.
Eh ben, merci beaucoup Irène de nous avoir appelé. Je précise qu'il y en a qui veulent garder l'heure d'hiver. Alors, Karima Deli, qu'est-ce qu'on fait?
De toute manière, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on va voir quels sont les aspects positifs et négatifs de rester dans l'heure d'été ou de rester dans l'heure d'hiver. Mais moi, je voudrais revenir à la question précédente, qui est une vraie question. Il faut savoir le contexte. Lorsque la France décide de passer, justement, de mettre en place ce changement d'heure, on est dans les années 70-76. On est dans une époque où il y a un pic, notamment le choc pétrolier. Donc on se dit, on va gagner justement des économies d'énergie sur cette mesure. 40 ans après, c'est plus que marginal. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut, parce qu'il y a une vraie étude du Parlement européen sur notamment l'énergie qui va montrer, selon les pays, on va gagner 0,5, voire 2,5 en termes de consommation d'énergie. C'est vraiment rien du tout. Alors que nous, on attend d'une politique énergétique en Europe, que ce ne sera pas 0,5, mais beaucoup plus. Pour revenir, qui va choisir l'heure d'été ou le changement sur l'heure d'hiver c'est pas moi. C'est-à-dire qu'à un moment, les études prouveront est-ce que c'est plus bénéfique de rester à l'heure d'été ou est-ce que c'est plus bénéfique de rester à l'heure d'hiver. Et ensuite, les pays, et je le répète quand même parce que c'est important, ne vivent pas la même différence entre l'heure d'hiver et l'heure d'été. Donc ce sera une négociation entre les États.
André Klarsfeld.
Je voudrais revenir sur l'expression « les études prouveront ». Mon sentiment profond, mais évidemment c'est pas entièrement scientifique, c'est aussi un peu personnel, la façon dont je vis la science et les rapports entre science et société, mon sentiment personnel c'est que les études ne prouveront rien, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup et qu'elles n'ont encore rien prouvé. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que le système dont on parle est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse en tirer des conclusions claires, comme les scientifiques aiment bien le faire dans les laboratoires. Ils travaillent sur des systèmes ultra simplifiés, dans lesquels on n'a qu'une variable qui change et on voit quel effet ça a. On peut faire établir des relations de cause à effet. On peut manipuler le système. Là, on ne peut pas manipuler
donc
le système.
Donc c'est impossible à évaluer, quoi.
On peut continuer à faire des études pour montrer que telle population est plus à risque et peut-être que plus à risque au moment du changement d'heure et que peut-être qu'elle doit prendre des précautions, par exemple. Voilà, ça serait intéressant si on maintient le changement d'heure. Moi, j'ai pas de religion en fait là-dessus. Donc, les études peuvent servir à protéger les gens fragiles, par exemple, si on maintient la mesure. Mais encore une fois, il faut bien se rendre compte que sur le plan global, épidémiologique, sur l'échelle de l'ensemble de la population, les effets sont quand même très, très, très faibles. Et il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. Donc, au total, vous allez avoir du mal à vous faire, à justifier une décision uniquement sur ce genre de considérations.
Alors, moi je voudrais juste poser une question, parce qu'on est aussi pour poser des questions. C'est, est-ce qu'on a des études des effets avant le changement d'heure? Avant, justement, 1976, est-ce qu'on peut comparer le avant-après aujourd'hui? Comment on faisait avant 1976?
Il y a tellement de choses qui ont changé.
Voilà.
Le problème, c'est que comme on ne changeait pas d'heure, on ne se posait pas la question de savoir si le lundi d'avant ou le lundi d'après, il y avait plus d'infarctus. Oui, c'est sûr que ça devient compliqué.
Je voudrais juste rajouter un mot. Ce que disait tout à l'heure le spécialiste de l'énergie, tout est une affaire de proportion. Les effets en matière de gains énergétiques sont faibles. Les effets dont on parle ici sont faibles aussi si on les compare à d'autres. Madame la députée parlait de l'effet de la lumière. Donc la lumière, d'une façon générale, on sait bien que la lumière a un effet majeur sur les systèmes hormonaux. Ça, c'est très connu, hein. On pourrait parler de pollution lumineuse. Dans les villes en particulier, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de nuit, finalement. Et ça, c'est un impact qu'on sait mesurer. Et qui est majeur, et c'est toute l'année, c'est pas juste au passage à l'heure d'été, à l'heure d'hiver. Donc il faut quand même relativiser les choses, il faudrait se concentrer sur la pollution lumineuse toute l'année, et pas, à mon avis, pas sur le changement d'heure deux fois par an.
Alors Karim Adeli, je vais repasser la parole, mais je voudrais quand même qu'on aille au standard de France Inter, parce que ça s'appelle le téléphone sonne, et qu'on va donner la parole à Xavier, qui est agriculteur, il faut quand même qu'on entende aussi les agriculteurs. Bonsoir Xavier, on vous écoute.
Bonsoir, je voulais juste dire que moi, là, ce qui me plaît, c'est l'heure d'hiver. Alors, je comprends qu'on peut aimer l'heure d'été parce que on profite plus le soir, mais nous, nos journées, elles sont plutôt à rallonge. Alors, déjà, l'heure d'été nous fait se lever une heure encore plus tôt que d'habitude. Bon, je commence ma journée de travail autour de 6 heures du matin.
Sachant que vous êtes dans le Finistère, hein, Xavier.
Voilà.
Ah oui.
Et je voulais juste dire aussi à l'autre intervenante qui est appelée, c'était pour lui dire de déménager. Si elle habite dans l'Est, elle sera bien accueillie chez nous. Hein.
On va trouver la solution. Ceux qui aiment l'été, ceux qui aiment l'hiver. Voilà.
Voilà. Et autre chose, là, l'heure d'été, c'est 2 heures d'avance sur le soleil. Donc, on a avancé d'une heure après la Seconde Guerre mondiale, de mémoire, de ce qu'on m'a appris. Et donc, déjà, une heure, c'est bien, ça devrait contenter tout le monde. Deux heures, ça fait beaucoup sur le cycle de vie de, normal des personnes, je pense. Une heure, ça suffisait largement. Et puis, quand on parle des enfants, j'ai des enfants que j'en ai trois, et c'est toujours la cata, le passage à l'heure d'été, quoi, parce que le soir, c'est impossible à les faire dormir, quoi. Quand ils sont jeunes, au moins, quoi.
Merci beaucoup, Xavier. Qui veut réagir, Yves Marignac?
Oui, mais enfin, justement, la question de l'agriculture nous renvoie effectivement à un mode d'activité qui reste beaucoup plus conditionné par le rythme naturel de la lumière que des activités qui se produisent en ville, etc. Et je suis complètement d'accord sur la pollution lumineuse dont on est victime. Mais à l'inverse, on a aussi pris l'habitude d'avoir des activités diurnes où on ne profite même plus de la lumière et où on a besoin d'éclairage, aller à la Défense, où vous avez même des tours avec des salles de réunion aveugles qui n'ont aucune fenêtre et où on est obligé d'avoir la lumière en permanence. Donc, en fait, on a perdu cette intelligence toute bête, hein, un mégawatt. On insiste beaucoup sur la notion de sobriété énergétique et donc d'intelligence dans les usages de l'énergie. Et ça commence par se servir de la lumière naturelle quand elle existe. Donc effectivement, on a besoin, si on veut avoir des activités quand il n'y a plus de lumière naturelle, d'éclairage. Mais la raison du point de vue énergétique, c'est quand même d'essayer d'aligner nos activités sur le rythme de la lumière et d'avoir des activités où on bénéficie de la lumière. Je pense que faire évoluer nos bâtiments pour ne plus avoir besoin de lumière électrique en plein jour aurait un impact beaucoup plus grand que ce dont on parle avec le changement d'heure.
Karim Adedi.
Je suis totalement d'accord avec Yves, ce qu'il vient de dire. Moi, je voudrais dire aussi à l'agriculteur que, justement, cette difficulté de s'adapter à sa propre horloge biologique, notamment à des temps sociaux, c'est-à-dire lui parle de son travail, parce que on appelle ça, c'est un nouveau phénomène qu'on appelle ça le jet lag social. Et oui, c'est un nouveau phénomène qui arrive. La deuxième chose, c'est que les agriculteurs aussi voient également énormément de problèmes chez les animaux. Parce que les animaux ont une propre horloge biologique. Et par exemple, chez les vaches laitières, il y a eu des études où on s'est rendu compte que le changement d'heure les stresse beaucoup plus. Et donc, eh ben, elles donnent pas du lait, entre guillemets, de manière régulière, etc., parce qu'elles sont véritablement stressées. Et la condition animale, je crois aussi, c'est pas un petit phénomène, c'est un phénomène sur lequel il faut qu'on s'attache.
André Klarsfeld, vous travaillez sur le jet lag social, vous?
Non, pas directement, mais c'est, il y a une autre facette, effectivement, c'est un phénomène important en semaine, mais il y a une autre facette du jet lag social qui est le week-end. Et le week-end, les gens se décalent parce qu'ils sortent, ils peuvent faire la grasse matinée. Et donc, du coup, le lundi matin, la nuit du dimanche à lundi est généralement la moins bonne et il y a plus d'accidents.
On s'impose un changement d'heure plus violent.
Oui, exactement. Exactement. Tous les week-ends, le lundi, il y a plus d'accidents de la route, par exemple. Il y a plus d'infarctus du myocarde aussi. Beaucoup, et l'effet du dimanche au lundi, tous les week-ends, est deux ou cinq fois plus fort que l'effet observé du fait du changement d'heure. Donc là aussi,
il faut
relativiser.
Il faut commencer plus tard le lundi matin, ça nous mène à la conclusion. Exactement. On repart au standard.
Et donc le mercredi.
Sylvain est en ligne.
Allô?
Oui, bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir.
Pardonnez-nous, mais là...
Effectivement, non, mais il y a de quoi rire. Hein. Je ris moi aussi.
Alors,
oui,
dites-nous
tout.
Je vais
revenir sur les propos de début d'émission, où il faudrait que l'Europe soit uniforme de la Grèce à la Norvège. C'est ça que je comprends pas. Si on fait des études, il faut faire des études en Grèce, il faut faire des études en Norvège. Parce que là, vous voyez, là, moi, je suis dehors, sous les étoiles, je suis en chemise, il a fait une journée magnifique. Il fait 17 degrés dehors et je suis à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, je ne comprends pas pourquoi on veut tout uniformiser.
Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous.
Alors, les études, bien sûr, elles vont être faites dans chacun des pays, aussi bien du Nord que du Sud. Mais l'important, réellement, c'est de rester dans une harmonisation. L'harmonisation, c'est-à-dire qu'on change en même temps. Parce qu'il faut derrière rester dans notre marché unique, notre marché intérieur, qui demande aussi de régler les questions de communication, les questions de transport. Donc on a vraiment besoin d'une harmonisation.
Ça veut dire que si on décide qu'il n'y a plus de changement d'heure, c'est pour tout le monde, voilà. Et si on décide que... voilà.
Si je peux André vous poser une question, oui. Je ne suis pas sûr de comprendre la logique. Je comprends qu'il faille changer en même temps si on change, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on ait la même heure partout? Parce que
mais on n'aura pas la même heure. Non, non. C'est que le changement se fera à la même date. C'est ça l'harmonisation.
Ça, c'est déjà.
Ça, c'est le cas aujourd'hui.
Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas un pays qui décide tout seul de sortir du système.
Alors,
c'est ça.
Ça, c'est possible. Alors, c'est possible, mais pour ce faire, il faut qu'il avertisse 3 ans à l'avance pour que les autres s'adaptent. Mais il y a un délai de 3 ans de mise en application. Il peut prendre la décision, mais il faudra attendre 3 ans.
Il faudra attendre 3 ans, effectivement, voilà. c'est pas fait. On va faire un dernier tour de table, il est déjà 19h57. Yves Marignac, le plus important pour vous à ce stade-là, c'est de poursuivre les études et de se dire qu'il y a des économies à faire ailleurs, peut-être, c'est ça?
Oui, le plus important, c'est
de vivre le plus possible en fonction de la nature.
La discussion sur le changement d'heure, mais je pense qu'on l'a vu à travers cette émission, elle n'est finalement pas si... centré sur la question énergétique. Et en revanche, bah oui, ça c'est le leitmotiv de l'association Négawatt, la transition énergétique nous impose des économies d'énergie importantes, mais ça se joue dans la mobilité, dans la rénovation thermique des bâtiments, dans énormément de choses
mais au-delà
qui vont bien au-delà du changement.
Mais au-delà du changement, vous pouvez peut-être avoir aussi un avis sur le fait de savoir si on est à la bonne heure. Tout simplement. Bah, est-ce qu'on n'est pas trop en avance avec notre GMT plus 1 et GMT plus 2?
En fait, c'est pas une question d'heure en soi, c'est une question
de
régulation sociale sur l'heure à l'horloge à laquelle on règle différentes activités. Ça pourrait évidemment tout à fait évoluer. L'heure est un truc purement conventionnel et...
Les Espagnols,
encore une fois,
les Espagnols
être intelligent.
André Clarsfeld, le mot de la fin pour vous.
Être intelligent dans notre rapport à l'énergie.
Je crois qu'on connaît à travers l'Europe les différences de culture. Les Espagnols ne dînent pas à la même heure que les Français ou que les Britanniques.
Quelle que soit la pendule.
Donc il y a un aspect social qui est très important dans la gestion de la journée.
Bien sûr.
Karima Deli.
Le dernier mot, c'est quand même, on n'en a pas parlé, mais moi je suis la présidente de la commission de transport et c'est ça qui m'a aussi motivée. Et vous l'avez juste mentionné, monsieur, c'est que le changement d'heure... On a vu, par exemple, la sécurité routière a montré les chiffres. Vous avez aussi ça sur le site du gouvernement. C'est que durant le changement d'heure, il y a 40% de plus d'accidents sur les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les
piétons. Quand on passe à l'heure d'hiver.
Voilà.
Les jours qui suivent.
Voilà. Donc, pour les piétons et pour les cyclistes, et ça, ce n'est pas possible. Donc, à un moment, il faut trancher. Voilà.
Merci beaucoup, Karima Deli. Merci beaucoup, André Clarsfeld. Le sujet n'est pas épuisé. Hein. On aura l'occasion d'en reparler,
c'est
certain. Voilà. Yves Marignac, un grand merci à vous pour cette émission qui s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous de nous avoir appelés. C'est la fin de ce 18-20. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Irène Menem, Jimmy Bourquin. Merci aussi à Juliette Gou à la réalisation, à la programmation musicale de ce 18-20. Ce soir, Djoubaka, la technique, Éric Morin, Ronan Mahé, Loïc Frapsos. Merci aussi aux standardistes de l'émission.